Cascodeur Podcast, épisode 280. Leçon de géographie, enregistré le 18 juin 2022.
Si vous voulez soutenir les Cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs. Et merci à vous. Épisode. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, nous sommes au Cascodeur, enfin dans le podcast Les Cascodeurs, c'est l'épisode de, j'allais dire 2800, mais non, 280, ah, restons modestes, encore, restons encore. Modestes.
2800, on aura quel âge.
Ouais, mais on est des 10x développeurs, alors après tu sais pas. Ah, oui. nous sommes le 10 juin. 2022, ça sent un peu l'été, les vacances, en tout cas pour les gamins.
Vivement.
Ils sont déjà à la maison, c'est insupportable.
Ah ouais,
mais déjà, mais comment ça se fait?
Ah, parce qu'ils font le bac et tout le bazar.
Ouais, lycée, ouais. Au lycée, préparation du bac de français, puis seconde, donc glandouille.
D'accord.
Top, top la vie.
Ouais, moi, je ne glandouillais pas parce qu'il fallait apprendre par cœur des trucs, c'est le truc, je n'arrivais pas. Bon, on a des petites nouvelles, tranquillou bilou. Donc, on va se lancer dans les langages. D'ailleurs, c'est rafraîchissant parce que je pense que c'est la section où on a le plus de nouvelles à vous raconter.
Ça faisait longtemps, non?
Ouais, ça faisait un peu longtemps. Et il y en a beaucoup qui sont sur Java. On n'a pas parlé des autres langages.
En plus.
Et donc, il y a je sais pas qui il est, je pense que c'est un... Enfin, en tout cas, il a posté sur fuji.io qui se décrivent comme des amis de OpenJDK, donc c'est une communauté alternative. Je crois qu'il y a des gens de Azul derrière, en fait.
Ouais.
Voilà, et qui a blogué sur les 7 raisons pourquoi, après 26 ans,
wow,
c'est-à-dire que les langages qui sont restés, il y a COBOL, C... Après, les autres, il y en a quand même, enfin, c'est quand même rare. Donc, Java commence à atteindre ses niveaux de glory and fame. et pourquoi Java, pour le coup, n'est pas un langage mort, mais a encore du sens, 7 ans après, ne vit pas juste sur sa rente, en fait, des applications existantes, en fait. Et donc, bon, il y a rien qui va être trop surprenant là-dessus, je pense, pour vous. Mais donc, il décrit évidemment la communauté. Alors bon, avec le Covid, ça s'était un peu calmé, mais des jobs, on en avait vu, on en a,
partout.
C'est en France, c'est pas mal maillé. Aux États-Unis, évidemment, chaque ville est assez loin de l'une de l'autre, les moyennes et majeures. Donc il y a des user groups là-dessus. Finalement le côté très large et touffu, non seulement du langage, mais de sa plateforme de base, en fait, fournie.
Donc, tu crois que c'est le temps qui s'épile un peu ou pas, alors? En plus, à l'approche de l'été, s'épile le milieu, tout ça.
Tu penses à Tuc Dual ou?
Bah là, il est, bah, au camping des speakers, est-ce que du coup, il a dû,
c'est ça.
Est-ce qu'il dépasse?
Et donc, non seulement la plateforme, mais aussi tout l'écosystème. Donc, je sais qu'il y en a, qui sont très vivantes, Go, Rust, alors Rust c'est en hyper croissance mais en plus jeune, Go plus c'est jeune, ouais. C'est commence à être relativement bien avancé mais ça couvre pas le volume énorme de solutions qui sont proposées via des librairies, l'écosystème de librairies Java. Sa stabilité, alors on râle parce que ils veulent rien changer etc, mais c'est vrai que je pense que si ça changeait tous les 3 ans avec ou des choses qui cassaient vraiment trop, et ben Java n'en serait pas là. Donc il faut c'est reconnaître sûr. Que c'est un boulot pénible pour eux, mais en fait en vrai on est d'accord
on
avec.
On est content.
Ce qui a évité que Java aille vraiment un peu dans le caniveau au moment où il y avait des flottements, notamment d'organisation aussi, avec les post-rachats d'Oracle, etc., c'est l'innovation et le changement de cadence qui a quand même ramené de l'énergie, de la visibilité et du coup de l'innovation dans Java. Enfin, pas et du coup, mais et de l'innovation dans Java. Donc, c'est Java 9 plus. Alors bon, ça a amené les modules.
Alors, Java 9. Bon.
Mais sinon...
En dehors du 9 et des
après,
modules. Et
des trucs.
Voilà, en dehors du 9, voilà, c'est ça en fait.
Mais la cadence, elle a changé en 9 ou plus tard?
Du 9 avec du vieux.
Elle a changé en 11, je crois, non?
En 11, hein, c'est ça, oui, je crois que en 9, c'est. Non, c'est ça, c'est plus. En fait, c'est la 11, à partir. C'est ça, c'est à partir de la 11
que ça. C'est vrai, parce que 11, c'est stable. 10, ça existait, mais on ne l'a jamais vu.
Ouais, jamais vu.
Donc, en fait, en tout cas, la cadence 6 mois, ouais, c'est... Non, il voulait accélérer depuis 9, et puis la cadence 6 mois, c'est 11. Enfin, et après, ouais, l'accélération, je pense. On va encore se faire taper sur les doigts parce qu'on s'est trompé, mais c'est pas grave.
Rémi
nous corrigera dans le mailing list.
Ouais, l'outillage, c'est important. Après, un langage qui a besoin d'outils, c'est un langage faible, certains diraient, mais ouais. En même temps, c'est vrai qu'on a un outillage, donc on a besoin d'un IDE qui est un peu intelligent parce qu'il y a effectivement des références entre les fichiers et que c'est un peu plus pratique.
Ouais, mais quand même,
etc.
Malgré tout, je veux dire, sur des gros projets, t'es bien content. Et même si ça n'avait pas été un langage qui avait besoin de tant d'IDE que ça, d'outillage que ça, malgré tout, pour les très gros projets, que les outils arrivent à aussi bien comprendre la nature du langage et que ça, c'est un champ, ça, c'est une méthode, ça, c'est ci, ça, c'est ça. C'est quand même un gain de temps, de compréhension, d'appréhension du code qui est incroyable. On pourra jamais contredire ça, quoi.
Ouais.
Et tout ce qui tourne autour, parce que tu parles de l'IDE, mais après, il y a quand même eu énormément de projets. Bon, il y a le build, la CI, etc. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont été très précurseurs côté Java et qui sont quand même assez bien développées, qui ont montré le chemin. Bon, après, maintenant, c'est devenu ce que c'est devenu, mais c'est vrai que l'écosystème d'outillage est quand même impressionnant. Certains langages en ont souffert quand on voit les langages qui ont démarré sans notion de module ou de librairie, tout ce qui est Go, tout ce qui est, enfin, où ils en ont souffert parce que il n'y a pas de release, il n'y a pas de versionning, et pas après, voilà, tout est critiquable, rien n'est parfait, mais ça a quand même changé pas mal la donne en 20 ans, ça a quand même beaucoup changé les choses.
Bah, en fait, en vrai, il y avait quand même vraiment très peu d'investissements dans les IDE, dans les langages d'avant. Et puis, c'était des sociétés niches spécialisées qui amenaient ça dans les grosses sociétés. Donc, il y avait du Borland et des choses comme ça. Mais la démocratisation, elle est venue. Parce qu'en fait, en gros, dans l'open source, il y avait Vimimax. Et puis, puis après, on passait tout de suite à du Borland ou du professionnel, etc. Et donc, quand Eclipse est arrivé... Je ne sais pas si NetBeans était là avant, mais voilà, enfin tout ça a révolutionné la façon de.
Et quand tu disais l'aspect communauté, enfin ce qui est cité dans l'article aussi, c'est aussi l'aspect open source, parce que enfin Java dès le début, enfin quasiment dès le départ, a été vachement ancré dans une logique open source. Enfin très tôt, les fondations Apache ont fait les Jakarta Commons, ça c'était dans les années 2000 je pense, et tout ça. Enfin, dès les débuts très tôt de Java, enfin il y a eu ces initiatives open source autour qui, je pense aussi, ont énormément aidé à son adoption et à sa vie, son écosystème.
Ouais. Et puis donc le dernier point qu'il annonce, c'est les opportunités d'emploi, parce qu'effectivement, malgré tout, alors c'est pas que les autres langages, il n'y a pas d'opportunités d'emploi, mais c'est vrai que ça reste inconstant, que ça se tarit pas. Alors après,
c'est bien payé. Autre langage.
Ouais. Voilà. Après, il y a des langages.
Si, faut être.
Bon, à un moment, JavaScript, c'était payé vachement, je pense que ça s'est peut-être un peu
c'était calmé, payé dynamiquement.
Dynamiquement.
Ça va, ça vient.
Voilà. Et du coup, il y a une stabilité en fait en termes de... soit tu acceptes que le changement, c'est tout le temps, mais si tu as une certaine stabilité dans
changement,
ton investissement, Java, c'est pas mal. Même si, évidemment, ça bouge, mais on reste dans l'écosystème.
La marche d'entrée est plus compliquée qu'à notre époque où effectivement c'était un petit langage avec peu de choses. Aujourd'hui, débuter et se mettre à Java, effectivement, je pense que c'est un peu plus coton.
En tout cas, il y a encore de beaux jours devant Java.
Oui, en fait, je pense c'est que les gens, ils démarrent pas en Java, ils démarrent dans une stack maintenant. Ce qui fait que ça te réduit quand même ton scope. Ouais.
Bah, en JavaScript, tu commences souvent, enfin généralement avec Node.js, quoi.
Ouais.
Mais là, tu vas commencer en Quarkus ou en Spring ou enfin, tu vas déjà essayer de prendre un seul pan. Tu vas pas faire effectivement.
Là, les jeunes, ils vont nous regarder comme des gens très bizarres. Mais nous, littéralement, il n'y avait pas de stack en fait. Il y avait le JDK et on démarrait. Et top, si, il y a enfin, Tomcat, enfin, il y avait un serveur web.
Ouais, voilà, ouais, il y avait quand même ça après. Bon, ouais, ça, ouais, enfin, ça reste toujours en couche. Donc, ok, on a choisi un serveur d'application. Après, bon, c'est à base de servlet au départ. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre comme framework compatible avec les servlets? Bon.
JSP.
Ouais, les JSP aussi. Moi, j'aimais bien.
Allez, on va passer au projet Layden.
C'est quoi, c'est bienvenue c'est la à Leidenstadt, non? Dans la chanson
quoi
de.
Je croyais que tu allais parler de l'article, mais en fait, pas du tout.
Non, alors, je crois que c'est moi qui l'avais mis, donc je peux commencer à couvrir. En fait, c'est marrant parce que donc j'ai détaillé, mais c'est vrai que j'ai encore du mal à bien comprendre en quoi ça consiste et surtout les différences après avec tout ce qui est GraalVM, etc. Bon, on va couvrir ça. Donc Mike Reinhold qui lance le projet Layden pour adresser les problèmes de temps de démarrage qui est généralement connu pour être pas super rapide en Java, de lenteur aussi jusqu'à la performance de pic performance max une fois que votre application Java est bien optimisée.
La lenteur pour se chauffer en fait. Pour
la lenteur, ouais, c'est un peu comme un diesel quoi. Et puis aussi, bah, malgré tout, l'empreinte qui est...
bientôt assez... interdit. Hein.
Ouais.
C'est ça, en 35, il y en a
le
plus.
Le thermique, ça va être fini. Et l'empreinte voilà, qui reste quand même assez lourde comparée à des petits exécutables natifs. Et donc à l'aide, l'idée de Layden, c'est d'utiliser des images statiques, de créer des images statiques pour votre application. Donc une image statique, ça fait tourner quoi ? Bah, une seule et unique application sur son JDK. Donc c'est pas une VM qui peut faire tourner plusieurs choses en même temps. On reste centré sur l'applicatif qu'on veut faire tourner. Et aussi dans un monde fermé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas charger comme avec Java, on pouvait faire du chargement à chaud, de plugins, de classes externes, de jouer avec le class path, le class loading, etc. Donc là on reste dans un mode et un monde fermé. Mais du coup là, les ingés de la JVM, ils travaillent sur une approche assez souple et voir éventuellement avec quelles contraintes ils vont pouvoir jouer, lesquelles ils vont pouvoir alléger par rapport à ce monde complètement fermé de l'approche des images statiques. Donc, est-ce qu'il y a certaines contraintes? Est-ce qu'on pourra, par exemple, ou est-ce que ce sera paramétrable, j'en sais rien, charger des classes à la volée pour des systèmes de plugins ou juste dans un scope particulier, voilà, à voir exactement, parce que ça reste quand même un projet de recherche des équipes de la JVM, à voir jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, voilà, l'approche du mode fermé, c'est plus l'approche de GraalVM Native Image, et ce qui apporte donc des avantages pour Micronaut, Quarkus, etc. Mais voilà, je suis assez curieux de voir comment ça va contraster par rapport à GraalVM et GraalVM Native Image. Est-ce que les deux vont être complémentaires peut-être ou pas? Donc je suis assez curieux de voir. Toi, tu suis peut-être plus Manu que
Moi. J'ai peur. En fait, dans le JDK, dans l'histoire, il y a eu les bonnes nouvelles features et les mauvaises nouvelles features.
Les bons chasseurs, les mauvais chasseurs.
Les lambda, par exemple, pendant longtemps, on se disait, oh là là, ça part dans tous les sens, chacun, c'est un truc. Et au final, je pense que les gens sont contents et c'est une fonctionnalité qui a amené de la valeur. Les modules, on va dire que il y a moins de gens qui sont fans. Voilà.
Carrément.
Et donc, il y a Arnaud qui fait
des grimaces, Arnaud. Des grimaces. Derrière. Vous ne l'entendez pas, mais Arnaud fait des grimaces, sur les modules.
Non, je pense au thread que je vois passer sur Maven, avec sur Fire, les modules.
Et voilà, exactement. Et j'ai peur que là, qu'il y ait un petit syndrome, soit de compétition d'équipe ou de non-invented here.
Parce que c'est vrai que chez Oracle, il y a VM, Oracle versus Oracle Labs, qui sont des entités quand même assez indépendantes l'une de l'autre. Et voilà, donc GraalVM, ça a été démarré chez Oracle Labs, mais pas chez Oracle et dans les équipes de la JVM, du JDK et du langage. Donc,
et après, j'entends le truc, on va essayer de garder le plus ouvert possible. Moi, je suis quand même extrêmement sceptique. Du coup, ça devient un projet de recherche. On en a parlé, je vous encourage à aller retourner sur l'épisode GraalVM. On a très bien expliqué que ça a été un projet de recherche pendant des années et que ça s'est industrialisé récemment. Donc là, si l'équipe y part sur un début de projet de recherche, bon, ben, ils seront donné rendez-vous dans 10 ans.
À moins qu'ils copient GraalVM. Enfin, j'ai quand même fait
que GraalVM, c'est Close World, quoi. Sauf la partie interprétation qui a déjà cette capacité du coup d'avoir des plugins d'extension.
Mais j'ai vraiment l'impression que c'est
pas pareil.
Ouais. Ils essaient de piquer les idées, mais voir comment ils peuvent leur faire dans la JVM.
Après, voilà, c'est quand même un projet de recherche. Il y a plusieurs axes. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, y compris plusieurs axes sur lesquels ils peuvent quand même travailler, que ce soit, donc c'est on ça. A dit en intro, sur le temps
de démarrage,
le temps de chauffe jusqu'à la performance max et l'empreinte. Donc, c'est quand même trois axes sur lesquels ils peuvent travailler, je dirais presque indépendamment, du fait qu'il y ait des images statiques ou pas, tu vois. Donc, ça peut éventuellement être complémentaire avec l'approche de GraalVM. Donc, ce que j'espère, les axes, en tout cas, ou les directions dans lesquelles ils vont aller, à voir.
Ouais, tu as raison. Parce que moi, je suis effectivement extrêmement biaisé sur la consommation mémoire.
Ouais.
Après, le temps de chauffe et le temps de démarrage rapide, c'est un bénéfice très agréable, mais c'est pas l'objectif principal. Donc là, du point de vue de moi, mon besoin, il y a de la flexibilité. Après, la consommation mémoire, c'est assez clé, aujourd'hui, de mon point de vue. Donc, à voir.
Ouais.
Voilà. Sinon, un petit article sur
l'évolution
dans Java 17. Sur comment configurer JFR plus facilement. Donc Java
Flight Recorder.
Flight Recorder, voilà. Qui était un truc propriétaire il y a longtemps, qu'ils ont maintenant mis dans la JVM.
C'était BBA, hein, Flight Recorder.
Ça vient peut-être de la JVM, mais ouais, très probablement.
Je pense, oui.
Et du coup, par défaut, quand ils disent ça consomme, ça fait une surcharge de 1% des ressources de la machine, en fait, c'est avec la configuration par défaut. Mais en fait, on peut activer plus d'événements, on peut décrire des événements à nous dans nos applications, et du coup, après, ça varie. Et du coup, quoi est activé au moment du démarrage de la JVM? Je sais pas si ça peut se mettre à jour en live, mais peu importe, c'est via un fichier qui s'appelle le .jfc, donc Java Flight Recorder Configuration. Et celui-là, ça peut être un peu pénible à configurer, à mettre à jour. Et du coup, ils ont créé un wizard, ils ont créé un truc en ligne de commande pour pouvoir dire, je parle d'un truc par défaut et je rajoute ces règles là pour moi ou pour ce nouveau lancement de l'application. Voilà. Donc, c'est améliore un peu la facilité d'utilisation. C'est bienvenu. Ensuite, projet Loom. Alors, c'est un peu comme les autres méta-projet de la JVM. Dans le projet Loom, ils veulent amener ce qui s'appelle la structured concurrency. Et je vous encourage à aller lire la JEP, mais en fait, moi, j'ai pas vraiment tout compris. Enfin, mon taux d'attention était en dessous de la longueur de l'article. Mais j'ai trouvé un résumé super bien ailleurs. Donc déjà, c'est ciblé pour le JDK 19 en objectif. Donc, ça incube via une JEP. Et ça propose de simplifier les applis, la programmation multithread, en introduisant une librairie qui permet de gérer, en fait, plusieurs tâches tournées, du coup, en parallèle via des threads différents, mais comme une unité unique. C'est-à-dire une unité qui peut être annulée et du coup annuler tous les enfants qui ont démarré, donc coordonner un peu cette annulation, gérer le error handling et de faire la propagation jusqu'à l'appelant original et améliorer l'observabilité, c'est-à-dire peut-être avoir un petit peu comme on a dans un, je sais pas comment ils veulent faire, mais comme dans du tracing, d'avoir un ID qui peut se propager d'un thread à l'autre et de pouvoir coordonner un peu ces informations. Voilà, donc c'est
à Devox France, lors de l'université de Rémi Forax et José. José avait justement couvert la Structured Concurrency. Donc, si vous voulez regarder, ne serait-ce que juste cette partie-là hein, dans la vidéo qui a été postée, il avait montré un exemple. Donc, j'avouerai, j'espère que José m'en excusera, je l'ai déjà avoué à Rémi, vu qu'on avait partagé le taxi pour rentrer chez nous le soir, que c'était au moment où je m'étais endormi pendant l'université qui faisait le matin. J'étais crevé, j'étais là. Mais qu'est-ce que c'est que cet exemple? Ça a l'air super compliqué pour faire ça. Et c'est vrai que sur le coup, j'avais pas compris la vague. Parce que ça, honnêtement, ça m'avait paru compliqué. de pouvoir créer cette structured concurrency, mais sur le coup, j'avais pas compris la valeur et l'intérêt que ça pouvait avoir. Et donc, pour moi, enfin, je pense que tu l'as bien expliqué, hein, Emmanuel.
J'ai copié ailleurs.
Au risque.
J'ai bien traduit de l'anglais.
Ouais, au risque de répéter, mais effectivement, non, c'est ça, c'était cette idée de faire en sorte que quelque chose qui est parallèle, concurrent, etc., soit vu comme une unité de travail, mais qu'en dessous, effectivement, il y ait peut-être des choses qui vont être en parallèle, en concurrence, certaines choses qui vont finir avant telle autre, tel thread ou fiber ou je sais plus, virtuel ou pas, va attendre ou pas une valeur de retour d'un autre thread, etc. Donc on structure, c'est-à-dire plutôt que d'attendre, j'allais dire bêtement, de faire un join à un moment en espérant bon c'est bon, tout le monde devra avoir fini, je peux récupérer les valeurs. Là on crée cette structure et on sait exactement qui commence quand, finit quand. Alors peut-être on sait qu'il y en a un qui peut finir avant l'autre, tout ça, mais le terme de toute façon c'est structured concurrency. On connaît quelle est la structure de cette exécution concurrente. Et du coup, on peut raisonner par rapport à ça. S'il y a des erreurs dans un des threads, on peut raisonner aussi parce que du coup, ça veut dire qu'on va relancer un autre ou je ne sais quoi. Donc l'intérêt est là, même si ça paraît assez compliqué à mettre en place. En fait, quand j'avais vu l'exemple où je me suis endormi.
Le code, il est verbeux aujourd'hui. Ouais,
et le code est très, très verbeux. Et du coup, pour l'écrire, ce qui m'avait choqué, entre guillemets, c'est le fait qu'il fallait vraiment bien connaître les classes de Structured Concurrency, parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression que tu étais obligé de wrapper les trucs dans des nouvelles classes, wrapper des threads, wrapper des trucs, et j'étais là, mais pourquoi on est... souvent, moi, ce que j'aime dans les API, des bonnes API, c'est quand elles sont découvrables facilement. Donc, t'es dans ton IDE, tu fais point, contrôle espace, pof, t'as la complétion. Là, des fois, il va falloir wrapper les choses et du coup, ça paraît moins intuitif. Alors après, je sais pas, je me rappelle plus quel est le statut du JEP. Alors, JDK19, normalement, il est en ramp down, non, hein, si je dis pas de bêtises. Mais c'est en preview.
Ouais, c'est pour être en preview, ouais, je crois.
C'est en preview, je pense, dans JDK19, parce que j'étais pas sûr que ce soit déjà bien sec, entre guillemets. Non, et si je me souviens bien, toujours dans le retour que j'ai partagé autour de taxi avec Rémi, il me semblait qu'il avait des opinions assez tranchées, Rémi, sur comment on pourrait l'améliorer au niveau de l'API pour que ce soit plus découvrable.
Ah, donc il a pas dit c'est de la merde.
Donc il a dit qu'il avait pas dit son dernier mot, en tout cas, par rapport à cette API-là qui pourrait être, plus découvrable.
Ouais. Donc ça va. En tout cas, j'encourage. Alors peut-être que José a fait un...
Ah, c'est une petite vidéo, là.
Peut-être que Loïc en a parlé dans un blog, je sais qu'il y a des gens qui, justement, prennent à la source le JDK et les expliquent au fur et à mesure, ce qui nous donne un peu de visibilité. Mmh. Donc, si vous l'avez pas fait, faites-le. Si vous l'avez fait et qu'on l'a pas vu, envoyez-nous un petit tweet, on rattrapera ça pour les fois d'après.
Yes.
Voilà. Redmonk.
Eh ben, on peut parler un peu d'autres langages, pour une fois. Ouais. Donc, Redmonk, les analystes ont analysé l'apparition du langage Dart grâce à Flutter, au travers de Flutter, dans leur top 20 des langages de programmation les plus populaires. Donc, évidemment, comme on disait tout à l'heure par rapport au premier article sur la popularité de Java, il y a toujours en tête les mêmes langages, Java, JavaScript, Python, etc. Ils restent toujours en tête. Mais on voit que Rust et Dart, par exemple, sont rentrés
Python,
récemment.
Python, c'est pas si vieux que ça, hein. Même si Python est très vieux.
Python est très vieux, mais Python a remonté, mais il a quand même toujours été dans le... J'ai pas vérifié sur l'historique de leur top 20, mais je pense qu'il a toujours été quand même dans les... Si c'est pas dans les 20 premiers, si c'est pas dans les 10 premiers, au moins dans le top 20, de toute façon.
En tout cas, là, il y a le TIOBE.
Ouais, le TIOBE.
Qui est le truc dont on a parlé avant. Ouais. Et là, Redmonk, ils ont une version alternative qui s'ouvre sur plus de sources ouvertes.
Qui est plutôt pas mal, je trouve. J'aime bien leur. Tu sais, ils ont un graphe, un espèce de cadran. Je sais plus d'ailleurs quels sont, je l'ai pas sous les yeux, les deux axes entre popularité, nombre de développeurs, etc. Je sais plus trop comment c'est fait, mais il est assez bien fait. Leur analyse est assez bien faite par rapport au Tiobi qui est un peu, bref, c'est pas forcément la place pour le critiquer. Donc Python, oui.
Carrément, mais carrément.
Python avec aujourd'hui tout ce qui est machine learning, ça reste quand même essentiellement beaucoup Python.
Tiens, juste du coup, on en parle. 97, 26e, 28e, pardon.
Dans
2002, 12e, ouais. Non, TIOBE, ouais.
Ah, dans le TIOBE.
2007, 7e. 2012, pareil, 8e. 2017, 5e. Et 2022, 1er.
Ouais.
Non, mais Java clairement, était 13e en 97, pour information.
Ouais, 97, ça paraît. Vu qu'il avait
il y avait combien de langages à l'époque?
Et il y en avait moins. Non, mais ça,
il y en avait moins aussi, ça, bien sûr. Ouais.
On remarque parmi les top. Parmi les top 20, attends, parce que Python, C, Java, C++, C#. Alors, C# c'est arrivé, ouais, après Java en...
Moi, je suis pour la paix, j'ai pas envie qu'on C#.
Tu crois?
2000 c'est quelque clair. Chose au début.
De quoi, .NET, c'est... C#.
Ah, C#, oui, c'est pas beaucoup plus vieux que Java, en vrai, 98,
ouais, j'aurais dit 2004, ouais. L'assembleur, bon, voilà. Swift,
c'est un peu vieux.
Alors, Swift, c'est récent.
C'est assez récent, quand même. Ouais.
Visual Basic, voilà. Delphi, Pascal, enfin, Object Pascal. PHP, pareil. Ça, bon, c'est plus récent, mais ça date pas d'hier. Objective-C, ça date pas d'hier. Go, c'est plus récent. R, je sais pas. Perl, bon, je pense que le monde a été créé avec Perl. Lua.
T'as lâché
après, il y a Ruby et Prolog, voilà. Donc, on parle quand même de langage... Voilà, il n'y a pas le dernier langage du jour.
Ouais. Bref, je reprends le fil. L'arrivée de Dart coïncide surtout avec l'émergence de Flutter comme framework d'interface graphique. Donc, que ce soit pour Android ou iOS, et même aussi plus récemment, alors c'est passé en GA, je crois, le support du desktop et du web, même si j'aurais tendance à penser que le support est peut-être un petit peu en deçà par rapport au support Android et iOS. Donc sur les applis mobiles, il y a toujours eu beaucoup de développement natif hein, sur Android. Les gens faisaient du Java, maintenant beaucoup plus de...
Le web, tu crois que ça a du sens ou
de,
vraiment ils ont fait la JSF à pousser les limites
Je pense que c'est... Enfin, j'ai pas regardé de près, mais j'avais l'impression que le support de tous les... Enfin, tu sais, les API natives des browsers, etc., que l'intégration n'était pas aussi, simple et agréable ou ne donnait pas accès à tout. Je sais pas trop, j'ai pas trop regardé. Le truc, c'est que donc c'est bien d'avoir un truc générique qui marche sur toutes les plateformes, mais tu auras toujours besoin à certains moments. Enfin, je sais pas si tu fais par exemple sur le desktop, tu veux avoir ta barre de menu macOS tout en haut, tu veux pas l'avoir dans ta fenêtre. Si tu fais du Windows, c'est autre chose. Quand tu fais de l'Android ou l'iOS, comme ils utilisent, c'est Skia et c'est un espèce de composant de rendu. Je sais plus si c'est en Skia, c'est pas spécifique que Kotlin. Hein. Ce qu'il y a, c'est vraiment la partie sous-jacente de rendu 2D, 3D, graphique, super, super optimisé, là. Qu'est-ce que je voulais dire, du coup, là-dessus? Et donc, ça reste quand même, donc, ils créent leur propre widget au-dessus de ça, et ça n'utilise pas forcément les composants natifs et leur comportement natif. Donc, quand tu veux faire une appli qui ressemble à la même chose partout, c'est bien. Si tu veux faire des choses qui sont vraiment personnalisées et qui paraissent le plus intégrées et naturelles par rapport à la plateforme, peut-être que ce sera éventuellement moins bien. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, donc il y a eu toujours beaucoup de développement natif. Donc dans iOS par exemple, c'était Objective-C à la base et maintenant Swift. Plus récemment, donc pour faire du multi-plateforme, il y avait React avec React Native qui a eu beaucoup de succès, mais apparemment Flutter commence à pas mal être utilisé. Alors, je pense quand même moins, j'imagine quand même que React Native qui était là depuis un peu plus longtemps. Mais on voit des applis comme... alors évidemment, comme Dart, c'est fait par Google, tu as des applis de Google comme Google Pay, Google Ads, qui sont développés avec Flutter. Mais aussi, critiquera qui critiquera ou pas. SNCF Connect, ça a été fait avec du Flutter. Et n'oublions pas, si vous voulez regarder et en savoir plus sur cette histoire, à Devox, il y avait également une présentation sur les développeurs qui ont travaillé, enfin, qui ont proposé un retour d'expérience sur leur utilisation de Dart et Flutter. Quand ils ont développé SNCF Connect. Les problèmes, les critiques de SNCF Connect ne sont pas vraiment par rapport à l'utilisation hein, de Dart et Flutter, ça n'a vraiment rien à voir, c'est plus l'existant des applicatifs, des API, etc. Leur présentation est vraiment bien, je l'ai vu après, je ne l'ai pas vu en direct à Devox, mais elle vaut le détour, c'est intéressant de voir, j'avais trouvé ça intéressant le fait que même des développeurs aguerris Android, iOS ou autres, se soient facilement et agréablement presque mis à faire du Dart et du Flutter, et même à la limite à en devenir des promoteurs en dehors.
Ouais, parce qu'en fait, le problème hyper dur pour des boîtes, c'est qu'ils disent, bon, il faut qu'on soit sur le mobile, du coup, tu crées une équipe, tu la mets, donc tu fais iOS, parce que, voilà, et après, t'as plus de thunes pour faire le reste. Alors que, du coup, en choisissant Flutter, tu peux avoir une équipe pour les deux plateformes qui vont te couvrir 80...
Et puis, il suffit d'un...
Le coût de maintenance, ouais. Parce que c'est toujours le même truc, avec les évolutions d'un côté ou de l'autre, que ça soit en natif, iOS ou Android, chaque année, t'as des nouveautés, des mises à jour à faire, et puis, on te force plus ou moins la main à mettre à jour tes applis, quand t'as juste besoin de remettre à jour, même si tu fais pas de fonctionnalités nouvelles, etc., si ça te coûte un bras, parce que t'as besoin de faire les deux en natif, en parallèle, ça coûte vite cher. Hein.
Ouais. En tout cas, voilà, apparemment, ça a l'air d'être ce succès de Dart et enfin de Flutter en particulier, qui pousse Dart vers le haut, et donc qui fait qu'il apparaît dans des classements comme le classement de RedMonk.
Il faut faire attention, parce que quand on lance une Dart vers le haut, ça peut nous retomber sur la gueule.
Ah ouais, et ça pique, hein.
Ouais. Super. Ben là, ça, c'est un... Et ce qui est marrant d'ailleurs, je
n'ai
pas dit, mais Dart, ça a démarré littéralement, hein, c'est les mêmes années que Kotlin et que Celon. Donc ils appellent ça des succès instantanés de 10 ans.
Oui. Non, mais ça, d'expérience, les langages, il faut quand même plusieurs années.
Et en fait, il faut le framework qui fait l'utilisation.
La killer app, souvent.
La killer app, ouais.
Ouais. Mais en tout cas, pour Dart, c'est Flutter, ouais.
Parlant de killer avec un K comme Kotlin, Kotlin 1.7 est sorti avec leur nouveau compilateur, le K2, donc qui, je sais pas si ça vient de la montagne ou si ça.
Mais du coup, c'est moins bien que l'Everest alors.
Ouais, K2. Bon, après, c'est moi, je fais pas ça. Je fais pas ça au petit déjeuner non plus, tu vois. C'est à la frontière entre la Chine et le Pakistan, pour information.
Je croyais que c'était une île dans les mers du Nord. Kotlin.
De quoi, K2?
Ah, Kotlin.
Non, je parlais de K2. Bon, bref. Donc, ils ont un nouveau compilateur.
Après, cette leçon de géographie.
Oui, c'est ça. Attends, mais nous, on est là pour éduquer.
Sur tous les domaines. On s'y connaît dans tout. Ou presque.
Donc, on s'y connaît dans tout. On devrait faire des radios, surtout, généralistes. Presque.
Carrément.
On va faire CC News. il faut qu'on trouve le polémiste. Tu sais,
après, on va faire les élections présidentielles.
Oublie pas la météo. Hein.
Ouais.
Alors, donc, Kotlin a un nouveau compilateur. Alors, pas sur tous les back-ends qu'ils ont, puisque Kotlin, c'est multi-plateforme, hein, même si voilà beaucoup la JVM. Et donc, ils ont un compilateur pour la JVM, un nouveau en alpha, donc plus rapide, mieux, etc. Attention, c'est les plugins, par exemple, ne marchent pas. Ils ont un truc qui s'appelle CAPT, comme APT, Annotation
Processeur,
Tree ou un truc comme ça. Je pense que c'est ça. J'ai pas regardé. Ça se trouve, ça n'a aucun rapport, mais je suppose que c'est ça. Mais vous pouvez essayer, leur donner un peu du retour. Amélioration des pertes de Kotlin et du compilo, voilà, du coup, pour la JVM. Amélioration du build incrémental, petit 1. Et petit 2, avec intégration dans Gradle. Du coup, ça va. C'est vrai que ces compilateurs, sans aller jusqu'à du Scala, étaient quand même, voilà, on les voyait, on les sentait s'exécuter. Nous, par exemple, dans Quacus, comme on recompile, en gros, à chaque fois que tu fais une nouvelle demande et qu'il y a eu un changement qu'en mode dev, on les voyait, les langages qui étaient longs à compiler versus plus rapides. Et du coup, là, toute amélioration incrémentale, elle est top. Et puis, alors, j'avoue que je connais pas le détail, mais l'inférence de builder et l'annotation opt-in qui ont été stabilisées. Et puis, un truc, on parlait de wrapper tout à l'heure. Et donc, ils avaient la capacité d'implémenter un délégateur sans faire une ligne de code, juste en disant, bah, je délègue telle classe. Ce qui était pas mal par défaut. Puis après, j'imagine, vous surchargez juste les méthodes qui vous intéressent pour ce délégateur. Et là, on pouvait pas combiner ça avec de l'e-lining au niveau de la JVM. Et du coup, là, maintenant, on peut. Ce qui fait qu'ils peuvent faire des délégateurs qui ne demandent pas un espace mémoire. Donc, c'est pas un objet, ça a été inliné. Donc, le compilateur va, au lieu de faire cet objet qui délègue à tel autre, en fait, il va faire un code synthétique qui va représenter ça. Donc, c'est pour des parties de votre code qui utilisent beaucoup de délégation, je pense qu'il y a de la valeur, et surtout si c'est sur un chemin critique en termes de création d'objets. Ça, c'est des choses que les développeurs de librairies normalement sont assez familiers avec. C'est les choses à éviter. Donc la délégation, c'est bien, mais il y a ce surcoût. Donc il y a toujours des équilibres à faire. Donc c'est pas mal cette approche d'inlining. Nous allons passer aux librairies. Je sais pas, c'est probablement la catégorie de Kedwell les plus mal nommées, mais bon.
Ouais. Sortie de Micronautes 3.5.
Sortie de route, c'est ça, ça y est.
Non,
quand même.
Non, nous, on tient la route.
C'est bien joué.
Oh, écoute,
tu ouais, non, mais t'as raison.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Passage à GraalVM 22.1.
GraalVM, d'ailleurs, c'est GraalVM, parce qu'il y a tout en majuscule.
Ah oui, j'ai tout en majuscule, j'en sais rien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la compilation incrémentale lors des builds. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est pour les métadonnées dont GraalVM a besoin. Donc, en fait, ça permet, du coup, d'éviter de faire tourner à chaque fois tous les annotation processeurs inutilement quand rien n'a changé au niveau de ces métadonnées-là, ce qui fait que la compilation incrémentale se fait beaucoup plus rapidement. Ils ont mis la version 3.4 de Micronautes Data, donc pour l'accès aux données, aux bases de données. Dedans, il y a quoi? Il y a le support des énums de Postgres avec l'intégration JDBC. Il y a la pagination pour les Reactive Repositories et d'autres trucs que j'ai pas notés ou que je connais pas. Pour les vues, il y a une intégration, un nouveau module avec Turbo. Et Turbo, eh ben, je connaissais pas. Est-ce que vous connaissiez Turbo, TurboFrame, TurboViews? J'en avais jamais entendu parler.
Turbo Pascal, je me suis arrêté.
Turbo Pascal, ouais, c'était bien, j'aimais bien ça. J'avais même essayé Turbo C++, mais je revenais toujours au Pascal parce que
c'est un des éditeurs niche IDE langage dont on parlait. Il y a la Borland, c'était un
truc. Ouais. Et Turbo, alors attends, est-ce que celui-là, attends, j'ai peur de dire une bêtise, mais est-ce que ça fait partie aussi de l'intégration avec Helidon comme MicroStream, qui est le point suivant, je sais plus. En tout cas, il y a un nouveau module justement pour MicroStream, qui est un moteur de graph d'objets natifs Java, qui est intégré et issu de Helidon, si on dit à la française. Donc après, comme une partie du développement de Micronautes se fait chez Oracle Labs, il y a aussi plus de rapprochement, en tout cas avec des technologies poussées par Oracle et Oracle Labs. Et puis après, bon, alors là, je les ai pas mis cités dans le détail, mais il y a plein de mises à jour de nombreux plugins et autres extensions, et y compris des améliorations dans les plugins de build, donc que ce soit pour Gradle ou pour Maven. Voilà les nouveautés de Micronautes.
Donc Turbo Pascal, c'était Borland d'ailleurs.
Oui, c'était Borland.
J'ai vérifié parce que j'étais pas trop sûr de moi.
Ouais, c'était Borland. Yes.
On va passer à l'infrastructure.
Ouh là là, on va parler de Kubernetes.
Ça faisait longtemps. Alors, on descend à la cave. Arnaud, vas-y.
Arnaud, hop. Alors, on descend à la cave avec Kubernetes. Bon, on revient pas sur toutes les versions à chaque fois qu'elles sortent, parce qu'il y en a tous les mois ou tous les deux mois. Ça va vite.
Non, c'est pas tous les six mois.
Ça dépend, oui. Ça dépend de si on prend les versions mineures ou les versions. Donc, la 24, en tout cas, est sortie là au mois de mai. Et il y a un changement qui, je pense, était intéressant à mentionner. La 1.24, je dis comme bêtise, ouais. La 1.24 est sortie au mois de mai, et c'est son intégration avec Sixtor. Est-ce que vous connaissez déjà Sixtor ?
Pas du tout,
mais non, tu vas SIG dire, comme signature, hein. C'est pas ouais. SIG,
SIG
malade.
Comme signature, ouais, SIG, ouais. En fait, c'est un nouveau système, c'est une nouvelle norme qui est en train d'être mise en place avec plein d'acteurs, Google, enfin, il y en a plein.
Je connais.
Tu connais? qui a pour but de simplifier, de standardiser, d'améliorer la gestion, bah, donc des signatures, signatures de binaire de d'archives. C'est ce qu'on fait généralement aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour ceux qui sont dans l'écosystème Java, généralement avec du GPG, avec Maven Central qui vous oblige à signer vos binaires en GPG. Et ça a plein de travers, c'est super pénible parce que bah, gérer ces clés GPG, c'est pénible, faut pas les perdre. Les partager au sein d'un projet, c'est mal fichu. Gérer la chaîne de confiance entre toutes les signatures GPG, c'est compliqué parce que normalement faut le faire en physique. Il y a des GPG parties, vous venez toutes avec votre clé, puis vous dites ah c'est bien toi.
Il y a eu des méga clusters pendant le Covid.
Bon, on a perdu toute la communauté GPG à cause de ça. Donc voilà, donc la signature des archives, des binaires, c'est quelque chose qui est critique aujourd'hui, surtout avec bah, tous les systèmes, enfin toutes les problématiques autour de la supply chain. On en a assez parlé ces dernières années, toutes les attaques et les problématiques de sécurité. Donc vérifier l'origine de binaires, c'est devenu critique pour s'assurer qu'on ne récupère pas quelque chose qui vient d'une personne qui n'est pas de confiance. Et donc Sixtor, c'est un nouveau projet qui essaye de devenir une norme pour essayer de gérer ça avec des approches un peu plus intelligentes pour essayer justement de gérer ça sans clé physique, enfin avec des systèmes différents, avec des API, des trucs centralisés, ce qui aussi permettrait a priori de simplifier tout ce qui est les signatures justement par les systèmes, puisque là aujourd'hui les signatures à la type GPG, bah c'est très bien quand on est un humain. Arnaud fait sa release de je sais pas quoi, bah il signe avec sa clé GPG et tout le monde sait que le binaire il vient d'Arnaud. Quand c'est une machine, parce qu'aujourd'hui on fait tout via de la CI, via de la CD, quand c'est une machine qui fait la signature, qu'est-ce qu'on fait? Bah on lui donne une clé à elle. Bah oui, mais alors, comment est-ce qu'on s'assure que la clé elle a pas été compromise, que c'est bien la sienne, qu'elle en est responsable, etc. Plein de soucis comme ça. Donc Sixtor, c'est ça, c'est ce nouveau système, futur système pour faire de la signature. Et donc Kubernetes, là, en version 1.24, a commencé à sortir donc des intégrations pour pouvoir gérer justement toute la chaîne de confiance et de signature via Sixtor dans Kubernetes. Alors, perso, je l'ai pas testé du tout, donc j'en parlerai pas en détail, mais je vous intéresse à regarder si c'est quelque chose qui vous tente. À ma compréhension, ça va permettre justement de pouvoir signer ou justement vérifier la signature sur toute la chaîne de provisioning de Kubernetes, les containers, etc. Tout ça, ça s'intègre aussi avec toute la fondation la CF
CNCF.
L'autre CNCF, SNCF.
Voilà. Pas la SN, la CNCF, effectivement. Donc tout le monde essaye de bosser là-dessus pour s'intégrer à Sixtor et pour que justement on améliore les systèmes de signature au sein de toutes les chaînes de les supply chains, parce qu'effectivement, quand vous avez un Kubernetes qui tourne, qui va récupérer des images un petit peu n'importe où, n'importe comment, et qu'on contrôle pas bien ça, et ben on peut avoir des mauvaises surprises, voilà. Donc si ça vous intéresse, voilà, Kubernetes 1.24, donc ça vient de sortir.
Et je crois que là, sur Hacker News, j'avais vu sur Hacker News, là, je crois que c'est aujourd'hui que j'avais vu aussi mentionné, et je vois que du coup, c'est mentionné là dans leur liste de blog posts là sur le site de Sixtor, sixtor.dev, ils introduisent GitSign, qui permet du coup de signer côté Git et sans clé GPG.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment le but de remplacer ça, puisque là, tu parles de Git. Je sais que l'équipe Maven travaille sur le remplacement ou tout du moins la possibilité de signer les artefacts de Maven Central avec avec du Sigstore en plus ou en place de GPG, puisque voilà, enfin GPG aujourd'hui c'est devenu trop limitant et pas assez pratique et efficace pour gérer les challenges qu'on a sur la supply chain de nos jours. Voilà. Donc c'est un projet, c'est très très actif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui bossent dessus. Ouais.
Et fondamentalement, tu sais comment il... Ta TI, du coup, elle fait quoi ? Elle demande une...
T'as des API et effectivement, t'as tout un système pour gérer ton authentification, mais je connais pas les détails. Aujourd'hui, j'ai juste survolé, j'ai pas eu le temps de regarder les détails. Mais justement, je sais que la partie justement automatisation était pas encore, pour les parties automatiques, là, les CI, etc. Il y avait encore des trucs qui étaient pas encore bien clairs. Je sais que j'ai vu des discussions sur la partie Maven. D'accord. Mais ça vaudrait le coup, pour le coup, je pense, d'avoir une interview, quelque chose comme ça dans les mois à venir, ouais, parce que je pense que ça va être un sujet à creuser.
D'accord. Si quelqu'un en parle en français, envoyez-nous un petit tweet. Alors, je sais que quelqu'un m'a envoyé des contacts autour de Kubernetes et je suis désolé, j'ai pas répondu, un petit peu... chroniquement surchargé, mais j'ai vu l'info. Voilà, on va regarder. Donc, c'est merci des retours que vous faites sur les gens qu'on pourrait interviewer. Ok, on va passer au web et ils vont faire un RFC Number Overflow là bientôt. Hein.
Ils vont passer à 10 000
bientôt. Oui, alors je remplace Audrey Antonio qui nous abandonne pour la partie web. Je suis pas allé chercher dans les frameworks et les différentes nouveautés JavaScript. Perso, j'y connais rien et je crois que...
Non, t'es resté dans la cave, là, pour le coup.
Et là, je reste dans la cave. Voilà, je reste dans la cave. On reste dans les couches basses, pas loin des niveaux ISO. Donc là, j'en suis sur le HTTP3 qui vient d'être validé. Donc la RFC, donc HTTP3, c'est la RFC 9114. Voilà, plus alors elle a des petits copains à côté, la 9204, la 9218, bon bref, il y a tout un pan de nouvelles RFC qui viennent d'arriver pour HTTP3. HTTP2, alors on l'a vu arriver, mais finalement ça n'a pas été le succès escompté. Voilà, il s'est développé, déployé, mais sans plus, pour plein d'avantages inconvénients. Mais ce qui avait été quand même essayé d'être fait en HTTP2, c'était quand même de rendre natif et simplifier toute la partie sécurisée, donc HTTPS, etc. Et HTTP3, ça continue un peu là-dessus, mais donc là tout va être basé sur un... Alors, personnellement, j'y connaissais rien, donc là je lis ce que j'en ai lu, mais ne me donnez pas les détails sur le protocole de transport QUIC, donc QUIC, qui justement permet de plus facilement gérer le multiplexage de flux, de gérer tout ce qui est contrôle, de gérer les connexions à faible latence beaucoup plus facilement. Et donc HTTP3, c'est ça en fait, c'est l'implémentation d'HTTP, donc c'est tout l'aspect qui explique comment implémenter HTTP sur QUIC, qui est ce protocole de transport. Et donc derrière, il y a tout un tas d'améliorations aussi au-delà du HTTP3 et de sa couche de transport. Donc par exemple, donc là je listais QPAC, la 9204, qui elle c'est pour compresser toute la partie header, la partie header de HTTP, hein, qu'on a besoin d'exposer. Et donc ça c'est basé sur un protocole de compression que je connaissais pas non plus qui s'appelle HPAC. Voilà. Et d'autres choses.
Juste, c'est intéressant parce que justement HTTP2, je vous encourage à aller interview 168, 170 les épisodes. On avait interviewé, Dreddy Buckelmoon, j'espère que je casse pas le nom, mais Dreddy nous avait justement expliqué HTTP2 dans le détail et ce qui n'était pas dedans. Et du coup, on avait discuté de QUIC, qui est un truc entre l'UDP et le TCP, donc un protocole interactif qui avait été ils avaient regardé, mais ils n'avaient pas rentré ça dans HTTP2. Pareil, on avait parlé de la compression des headers, mais qui était basée sur une table statique. Donc, au final, pas très top. Donc, j'imagine qu'HPAC est plus une approche dynamique. Voilà. Donc, visiblement, c'est genre, on n'avait pas eu le temps, mais voilà, on amène les nouvelles solutions.
Ça arrive.
Et dans le reste, donc voilà, donc une notion de priorisation pour les flux, donc la capacité pour avoir un protocole pour dire entre le client et le serveur comment prioriser les flux qui sont échangés entre les deux. Donc ça, c'est une autre RFC, voilà. Donc Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, HTTP3 est sorti en RFC. Ça veut dire que maintenant, bah, les implémentations vont pouvoir sortir en version stable sur le protocole. Mais bon, il y a encore du chemin avant que ça soit disponible dans toutes les serveurs web du
browser.
Ouais. Moi, après, j'avoue que c'est pas mon expertise, mais une des choses potentiellement intéressantes dans HTTP2, c'est qu'on était capable d'aller proactivement pousser des ressources aux clients, parce qu'on savait que quand on demande telle page, on peut, il y a aussi ça et ça et ça qui vient. Mais en vrai, au niveau des backends, en tout cas, moi, j'ai pas vu surfacer des annotations ou des choses qui permettent de dire, ah bah tiens, je détecte dans ton schéma de template que tu y as ces autres ressources, du coup, je vais les pousser en HTTP2. Donc ça, c'est un truc où l'industrie a, enfin, alors, soit je l'ai pas vu, soit l'industrie a pas forcément rattrapé, et donc c'est implémenté par des équipes sur des sujets très chauds en termes de temps de latence ou qui ont beaucoup de requêtes et sur lesquelles ça a de la valeur et du coup qui ont amené ça, mais qui est du coup un peu du code spécifique. Voilà. Voilà. On va passer à l'outillage et VS Code Java, donc qui est le plugin Java de support dans VS Code et tout ce qui utilise les plugins VS Code. Et donc ça supporte, donc c'est la version 1.5 qui est sortie, qui supporte Java 18 avec des inline int pour les méthodes paramètres, amélioration de la navigation des déclarations de classe, et puis voilà, des petites choses comme ça. Donc en général, le VS Code, il vous dit allez, on upgrade, c'est la fête, donc vous avez juste à démarrer, ça va bien se passer, mais si c'est pas le cas, vérifiez que vous mettez bien à jour.
Puis des fois, moi, dans mon VS Code, j'ai des plugins qui veulent tirer la couverture à eux là, donc j'ai dû plusieurs trucs de support Java de Microsoft, d'Oracle, de NetBeans, de Vue, Red Hat là, et du coup je sais même pas qu'est-ce que je dois vraiment utiliser dans mon VS Code. Au moins dans IntelliJ je le lance et avec un fournisseur je me pose pas trop de problèmes, trop de questions. Et d'ailleurs ça n'a rien à voir.
D'ailleurs je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que quand tu cherches j'ai un problème genre ASCII doc. Et là, t'as 7 plugins. Alors, il y en a un qui est plus populaire, mais tu sais pas trop. Alors, ouais. Peut-être pas. Mais en fait, j'avoue que le marketplace non
ben, curated, c'est curated, un peu pire. Ouais. Ouais. Et une news aussi là que j'ai vu passer. Alors, c'est pas spécialement Java, mais c'était VS Code versus Atom. Vous vous souvenez d'Atom? Ouais. Donc, qui avait été poussé.
On se souvenait plus, mais maintenant on se souvient.
Poussé donc un environnement de développement qui avait été poussé par GitHub.
Ouais, c'est ça,
GitHub. Mais GitHub, c'est aussi Microsoft. VS Code, c'est Microsoft. Et on a vu quand même que VS Code avait pris une grosse part de marché de ces éditeurs de texte. Enfin, ouais. Je dis ça éditeur de texte pour contraster un petit peu avec les IDE comme IntelliJ et tous les IDE de JetBrains et autres. Et donc, GitHub annonce la fin, la mise au grenier d'Atom pour la fin de l'année, je crois. Voilà, si vous utilisiez encore Atom, alors je pense qu'ils vont certainement pousser des guides de migration, des choses comme ça pour aider les gens à transitionner d'Atom vers VS Code.
Ils vont passer à quoi, l'éolienne?
Non, bah, VS Code. Hein.
Ok, c'est bien. on va passer à l'architecture. Donc c'est un article, alors si vous suivez un peu, c'est pas non plus le truc le plus révolutionnaire, mais ça liste pas mal de choses que Netflix fait. Alors du point de vue d'un non-Netflixeur, je crois, du coup il peut y avoir des petites erreurs, mais ça, il décrit en fait la façon de penser, pourquoi l'architecture a ou aurait été faite comme ça. Du coup c'est intéressant si vous voulez penser vos systèmes. Alors vous n'allez peut-être pas avoir les besoins de Netflix, mais c'est... Ça vous permet d'accumuler un certain bagage de choses à penser, quoi.
Il y a un truc, j'ai pas lu l'article. Est-ce qu'ils en parlent ou pas par rapport à l'environnement de développement des développeurs qui bossent sur Netflix?
Ah non, ça c'est Lyft plutôt. C'est un super article, ça, de Lyft qui expliquait l'environnement de développeurs et comment ils passaient le trafic de la prod vers l'endroit de dev, quand ça vient du trafic du développeur, pour pas avoir à gérer le staging et la prod.
Parce que là, ça, en fait, ils ont fait un blog de ouais, non, je pensais, alors là, c'est plus une histoire, on va dire, interne de copains à moi qui travaillaient, au moins à une certaine époque, chez Netflix, et qui me disaient que chez Netflix, en fait, ils avaient des machines de développeurs de malades avec 21 gigas de RAM, à l'époque en tout cas, et c'était, à l'époque, il n'y avait pas... Il n'y avait pas autant de RAM dans les machines. Donc, c'était il y a, je sais plus quand est-ce qu'on m'avait raconté ces histoires-là. Et ils avaient des machines, mais incroyables, parce que ils voulaient pouvoir monter l'environnement équivalent de Netflix sur les machines des développeurs. Et je pense que ça, ouais, ça a dû beaucoup évoluer depuis. Et je serais curieux de voir comment ils travaillent, quel est leur cycle de développement. D'accord. Et leur expérience développeur. Voilà. C'est pour ça que je
dis. Il y a un blog de Lyft là-dessus qui est intéressant. Et c'est rigolo ce que tu racontes, parce que moi, du coup, quand Dart a démarré, alors c'est pas moi qui ai discuté avec eux, mais quelqu'un qui travaillait sur Ceylon, qui avait pareil un copain dans l'équipe Dart.
Ah ouais.
Et ils avaient des machines de malade.
Ah ouais,
la compilation Ceylon. Ah ouais, non, moi je sais pas. J'ai 16 cœurs et 21 gigs. Je vois pas.
Que pour monter vraiment tous les. Alors, donc 21 gigas.
Je parle de l'époque 2011, voilà.
Ouais, il y a plus de 10 ans. Là, ce que je raconte aussi, c'était à l'époque où j'étais. Où c'était, par exemple, mes camarades qui travaillaient sur Gradle et qui faisaient du consulting chez Netflix, etc. Et comment après aussi certains ont rejoint Netflix. Donc, il y a plus de 10 ans, 10, 15 ans, et enfin, c'était des. Enfin, tu n'imaginais même pas des machines de développement avec autant de mémoire, ouais, etc., pour arriver à monter tout l'environnement. Et du coup, là,
tu sais, ils t'amènent la baie de brassage.
Ouais, direct. Limite.
Quand tu commandes un laptop, tu as la baie de brassage qui arrive avec les U.
Ouais, c'est clair.
Donc, cet article de Netflix, donc c'est du système design en termes de disponibilité, de latence, de scalabilité, l'habilité et de résilience aux erreurs de réseau, notamment. On le sait, Netflix, ils sont tout hébergés sur AWS. À un moment, ils ont fait un choix de sortir entièrement de... entre guillemets, sortir entièrement du data center, mais ils se sont beaucoup mis dans les data centers locaux des endpoint providers, je ne sais plus comment le nom officiel, mais donc, ça, c'est pas AWS. Et du coup, des choses très intéressantes, c'est que d'ailleurs, pour tous ceux qui font un peu des services, c'est toujours la plaie de savoir si un client a effectivement un usage qui correspond à ses attentes du service. Mais Netflix, ils contrôlent les clients, en fait. Donc, évidemment, le site web, c'est eux, mais tous les clients, en fait, ils ont un SDK derrière qui est utilisé par tous les clients, que ce soit sur votre télé, Samsung, l'Apple TV, voilà, tous les trucs possibles et imaginables. Et ces clients-là, ils sont intelligents et du coup, ils savent passer d'un back-end à un autre en fonction de, bah, tiens, c'est trop lent, je vais essayer tel autre, ah ouais, il est mieux pour moi, voilà. Et du coup, de toute cette intelligence pour que ça se passe bien, elle a été ramenée côté client, ce qui est rare à pouvoir faire, en fait. Donc, c'est un usage très intéressant de leur architecture. Et du coup, ils switchent en temps réel, en fait, en fonction de la bande passante dispo et de comment ça marche pour le client par rapport aux endpoints différents. Ils ont un CDN à eux qui s'appelle Open Connect où il y a en gros les vidéos effectives ou les morceaux de vidéo. Et après, c'est entre guillemets du bon vieux microservice dans le back-end qui ramène. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce qui est ramené au client, c'est pas tiens, prends telle connexion à tel endpoint de CDN, c'est tiens, voilà 10 qui sont bons pour toi, on pense. Et le client, en fait, il fait des rotations et il vérifie dynamiquement celui qui est le mieux pour lui. Donc ça, c'est intéressant. Puis après, du coup, côté back-end, ils ont une API gateway via... Enfin, Zool est sorti un peu de Netflix, ce genre de choses. Donc, du routage dynamique, du monitoring de trafic réseau, la sécurité, la résilience aux échecs, et tout ça au bord, au moment où on rentre dans l'infrastructure Netflix. Donc, c'est at the edge of leur data center virtuel. Donc voilà, c'est un peu long, donc c'est un article à mettre de côté quand on a un peu de temps. Mais Voilà, bon, si vous ne lisez pas, vous n'allez pas mourir, mais c'est, ça peut être intéressant.
C'est juste dommage, mais si c'est quelqu'un extérieur, obligatoirement, il peut pas en parler. Ce qui est dommage, c'est qu'il manque en perspective, c'est justement les chiffres qu'on discutait, les volumétries, les temps, etc., pour mettre un peu en perspective, bah, justement, comment l'architecture répond aux problématiques de charge. Parce qu'effectivement, bon, je pense que dans notre vie de tous les jours, on est très peu à avoir besoin de répliquer une infrastructure à la Netflix. Et pourtant, ça doit être super intéressant. Enfin, vu les volumétries qui gèrent et qui.
Ouais, après, c'est... surtout entre guillemets, c'est facile pour eux, hein, parce que nous, on a toujours les trucs transactionnels où il ne faut pas perdre la data, etc. Eux, c'est un cas différent. Donc voilà,
c'est pas grave.
C'est toujours frustrant, en fait. Quand on parle au gros, ils disent, ah, mais nous, on peut perdre des trucs, c'est pas grave. Et t'es là, et moi, je peux pas. Et du coup, j'ai mon bon vieux Postgres.
c'est comme ça que Disney Plus, il rame le vendredi soir. Bon, bref.
Ah ouais.
Et je l'ai pas vu ramer, moi, tiens.
Mais j'ai pas Disney.
En même temps, peut-être que je fais pas le vendredi soir.
Tous les vendredis soirs, généralement. Ouais.
Non, c'est parce que tous les gens chez toi, ils regardent des trucs différents.
Ils sont tous sur Disney Plus. Ça tue ta bande passante.
Je vais leur couper les accès, ouais, c'est ça. Ouais. Les gosses.
Il faut la priorité des flux, là. Il faut le web
HTTP3. Il faut HTTP3, c'est ça. Ouais. Et que moi, je puisse dire Arnaud, priorité maximale. C'est ça.
Priorité
maximale. Les gosses.
Voilà, on va passer à la loi société et organisation. Donc, c'était une rumeur au moment où on a commencé à en parler, puis ça s'est vite concrétisé. Ouais. Donc, Broadcom a fait une offre publique non sollicitée d'achat de VMware pour 61 milliards de dollars.
Une paille. Bon.
Paf, une paille ou deux.
C'est ça.
Donc Broadcom, ils sont connus pour la construction de microprocesseurs, etc. Après, ils ont quand même un portfolio. C'est devenu pas mal une holding autour de la technologie, en fait. Donc ils ont racheté Symantec, par exemple. À un moment, ils l'ont racheté c'est Intel qui, non, c'est McAfee. Enfin bref, il y a eu un rachat à un moment, hein, comme ça. Et donc, ils annoncent leurs objectifs. Donc, je crois que le board de VMware a dit OK. Après, le board de VMware, ils sont là pour représenter
les
actionnaires de VMware, sachant que Dell avait, Dell et je sais plus qui, et EMC avaient 50%. Donc, voilà, il y a quand même des gros actionnaires qui pouvaient prendre les décisions. Et donc ils vont prendre VMware, ça va être leur division software, et ils vont prendre tous les softwares qu'ils avaient et les mettre là-dessous. Et ils vont passer d'un objectif de, alors l'EBITDA, c'est en gros le bénéfice avant les impôts, l'objectif c'est de passer de 3,5 milliards, qu'est-ce que VMware fait par an, à 8,5 milliards. Juste
facile.
Parce que voilà, ça a été arraché, donc ça m'a mieux marché.
C'est ça.
Et pourquoi ils ne l'ont pas fait avant?
Ils sont cons, les mecs de
VMware. Ils sont cons. Ils sont cons.
Oh là là, faut tout leur dire.
Faut tout leur dire, ouais. Donc VMware, c'est une histoire. Guillaume, tu.
Non, moi, j'en parle pas de VMware.
T'as fait les poupées russes.
Je n'ai pas le droit d'en dire du mal.
Spring Source, VMware, EMC, ressorti, Dell, ouais. Ressorti.
Et après viré aussi. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'en dire du bien de VMware.
Ouais. Non, mais là, je pense pas qu'on va dire beaucoup de bien, là, en l'occurrence.
Non, mais ouais. Enfin, ça paraît. Enfin, j'ai toujours du mal à comprendre ces rachats. Alors des fois, tu vois, une grosse boîte qui rachète une autre grosse boîte dans le même domaine, Moike, Mana, Monopoly, tout ça, mais ça fait
Monopoly.
Sens. Là, Monopoly.
Monopoly aussi.
Aussi. Et là, tu vois, Broadcom, mais Broadcom, ils font quoi? Pourquoi ils rachètent VMware? Et là, tu te dis, mais ouais, bon, ok. Alors diversification, bah, je sais pas, rachète un truc qui vend des fruits et légumes, ce sera vraiment varié, quoi. Donc, s'ils veulent.
Et 5 fruits et légumes par jour, minimum.
Alors, 5 rachats à 61 milliards, putain, ils vont avoir des fruits et légumes. Non, mais j'en pense pas grand chose. Et je suis curieux de voir, comme on disait, ils étaient contents d'être sortis d'un truc.
Il n'y a pas de synergie
annoncée,
quoi. Ils sont rachetés.
Bah ouais, ouais. Du coup, je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas.
D'un autre côté,
c'est un investissement.
J'imagine que ça devient de plus en plus compliqué pour tous ceux qui sont dans le hardware. On le voit bien avec toute, bah, avec la crise suite au Covid, suite au manque de matériaux rares, l'écologie, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que ils essayent de se diversifier sur d'autres secteurs où ils sont moins en risque de, bah, dans les années à venir, de souffrir de ce genre de sujet, parce qu'effectivement, bon, bah, le software. Pour le coup, là, nous, pendant la pandémie, on a pu coder et on enquiquinait personne. Effectivement, bon, bah, construire les puces à cette période-là, c'était un peu plus compliqué. Et ça l'est d'ailleurs toujours, hein, puisqu'on voit bien, et ça va certainement rester pendant un petit bout de temps et certainement jamais comme avant.
Moi, je veux une puce M2, d'ailleurs.
Mais je suis d'accord, c'est que business, c'est pas du tout, il n'y a pas de logique. Ouais. C'est juste, je prends une poule qui m'a l'air d'être soyeuse, machin et tout, qui va me faire des beaux œufs et je l'achète pour être sûr que je puisse avoir des œufs pendant les années à venir, même si moi, ça, enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Enfin, voilà, ces rachats-là, je suis d'accord avec toi, ça pue. C'est pas un mariage d'amour de se dire, on va ensemble, on va faire un truc bien, machin. Non, c'est juste, j'ai besoin de diversifier mon activité. Mmh. Hop, là, je prends ce truc-là qui marche bien.
Parle-nous d'amour.
Ce qui se disait dans la rue, c'est que VMware était quand même content d'avoir repris sa liberté par rapport au deal
EMC
pour pouvoir avoir sa stratégie vraiment plus libre et qui pensait être vers la direction où ça allait. Donc là, avec Broadcom, sachant que là, ben, pour augmenter l'argent, soit faut amener plus, soit faut dépenser moins.
Par contre, faudra quand même que tu me dises dans quelle rue tu vas pour entendre ce genre de truc-là. Parce que moi, dans ma rue, je parle alors pas du tout de ça.
Ça se dit pas, ça, c'est le problème. Et donc, il y a un article public, en l'occurrence, d'un ex-VMware qui a changé de crèmerie. Il est passé boucher. Ouais. Enfin, il a changé de domaine d'activité. Mais qui explique comment, pour lui, ça va être du
carnage.
Du tirage de lait, le plus possible, squeezer le truc, et que VMware a point de. Enfin, pas trop de futur. Après, ce monsieur-là, il était dans une division spécifique de VMware, pour info, quand il bossait dedans. Donc, c'est peut-être pas forcément... Celle que nous, on connaît, c'est plus autour de du Spring, Tanzu, etc. Ouais. Donc, voilà, il y a peut-être des choses différentes. Ouais. Voilà. Bon, ça va prendre un peu de temps, de façon à se faire, ce genre de choses. Et Broadcom, qui avait déjà été... avait essayé de racheter Qualcomm... qui avait été refusé par l'administration Trump pour rachat hostile interpays. Donc après Broadcom, ils ont bougé leur siège social aux États-Unis. Okay. Et comme ça, ils peuvent racheter.
Plus facile.
C'est les poupées russes, c'est ce que tu disais tout à l'heure pour Guillaume, mais ça revient à ça maintenant.
Oui. Mais pas en Russie, parce que là, tu peux plus rien
faire. Là,
c'est la poupée américaine. Hein. C'est ça.
American Doll. Ok. Je sais pas comment il va ressortir cet épisode. C'est curieux en fait.
Non, mais ça fait du bien.
Ça fait du bien,
en
voilà.
En tout cas.
On va passer aux outils de l'épisode.
Waouh.
Ça fait longtemps. On va parler de. Non, ça faisait pas longtemps puisque donc toi t'étais sous l'eau, mais j'ai fait un outil de l'épisode la dernière fois. Figure-toi.
Ah, flûte alors. Bon, bah, moi qui.
Ah non, c'était une rubrique de débutant.
Ah.
Ça fait encore plus longtemps, celui-là.
Oui, c'est ça.
Alors, vas-y.
Outil de l'épisode, je voulais revenir sur GitHub Copilot, que j'ai testé là depuis une, deux semaines.
Ah, cool.
Sur des développements que je suis en train de faire. Et je voulais revenir dessus parce que, bon, on en a parlé quand c'est sorti il y a, je sais pas, il y a plusieurs mois maintenant, voire un an. Et personnellement, je suis le mec mais super sceptique sur ce genre de truc qui génère du code. Enfin, moi, les générateurs de code, j'en ai horreur. Honnêtement, tout ce qui est un peu trop magique pour moi et qu'après on maîtrise pas et qu'on doit maintenir, enfin, moi, j'ai horreur dans ça. Et donc, bon, je me suis dit, bon, j'ai quand même testé, quand même pas mourir idiot. Enfin, pas maintenant, hein, on va attendre un peu. Et donc, j'ai testé depuis deux semaines et en fait, bah, mon retour est quand même plutôt positif. C'est-à-dire que, bon, effectivement, en termes d'ergonomie, etc., c'est pas toujours. Enfin, j'utilise dans IntelliJ personnellement. C'est des fois un peu casse-pied parce que ça utilise les touches d'autocomplétion, les tabs, etc. Donc, il faudrait certainement que je leur map pour que ça soit un peu moins intrusif dans mon utilisation quotidienne. Mais après, les propositions qu'ils font, bah, sont quand même bien fichues. C'est-à-dire que faut pas trop s'attendre. Alors, même si des fois on peut très bien, en se basant sur des noms, si vos noms de méthodes sont relativement explicites ou si vous utilisez la méthode pour faire, vous écrivez votre ce que vous voulez faire en forme de commentaire et derrière il va essayer de
comprendre et de générer la méthode complètement. Bon, il essaye de sortir du code qui, dans le contexte actuel, est pas trop déconnant. Mais par contre, là où je trouve finalement plus intelligent, c'est sur vraiment des petits bouts de code. Des petits bouts de code, genre générer des messages de log, truc tout bête, hein, le truc qu'on va écrire, un message de log pour dire machin fait truc trop toto. Bah, il a compris que le code il en était à là, il faisait ça, pof pof pof, il génère le log point quelque chose dans Quarkus, le log point quelque chose, plouf, il te le génère tout seul. Des trucs après un peu plus, quand vous avez du code qui se ressemble, qui est un peu du copy-call, machin, etc., qu'on pourrait très bien faire avec du templating dans IntelliJ, bah ça aussi pareil, bah les tests par exemple, écrire des tests quand vous avez des tests un peu qui se ressemblent un peu mais vous voulez justement tester différents cas machin etc, il va te générer, si tu écris bien ton nom de méthode qui est explicite, il génère un bout de code qui va ressembler à ton code que tu as écrit avant mais avec quelques modifications qui pour l'ensemble bah marche pas trop mal. Donc au final j'étais quand même assez surpris. Alors bien sûr des fois il te génère de la merde, hein, clairement tu lui dis mais non arrête ça, arrête ton char, c'est n'importe quoi, mais dans l'ensemble il y a quand même des trucs, tu te dis bah ouais c'était ça que je voulais faire, ouais c'est pas trop loin, et effectivement bon bah je modifie le 2-3 trucs parce que il s'est planté sur le nom de la méthode à appeler le machin, mais ouais ça fait le truc que je veux machin, donc j'en suis finalement assez content. Après ça, c'est la partie positive. Donc ça m'aide, je trouve que effectivement il génère du code qui fait du sens régulièrement. Là par contre où effectivement je me méfierais, ça reste toujours l'aspect privacy et tout ce qui va autour, hein, parce que je reste pas convaincu de comment toutes ces données là et toute cette logique est gérée entre ce qui est fait en local, de ce qui est pas fait en local, etc. Bon, en fonction des contextes, quand on fait ça sur l'open source, ça va. Quand on fait ça sur des projets, le dernier projet de l'armée super secret, je me méfierais quand même. Donc, il y a quand même des trucs là-dessus où, bon, c'est sympa, mais voilà. Et donc, je vous ai mis le lien aussi, donc, dans les show notes d'une vidéo, d'une présentation sur GitHub Copilot qui, justement, a été faite aussi à DevOps France cette année, où ils font leur retour, et je ne l'ai pas encore vu, donc je vous la donne juste, voilà, parce que je ne l'ai pas encore vu, j'ai testé finalement avant de... Et a priori, donc, l'accès à GitHub Copilot est désormais ouvert, parce que moi, je sais que j'ai eu mon accès il y a 2-3 semaines, je ne sais pas, il n'y a pas très très longtemps, mais mon collègue, je lui ai dit, bah tiens, tu veux tester, bah il l'a eu instantanément, donc je pense qu'ils ont ouvert les vannes, et si vous voulez le tester, bah vous pouvez juste demander l'accès, et ça va assez vite, a priori. Voilà, donc petit retour de terrain...
J'ai une question là. À un moment, tu prenais l'exemple des tests,
ouais,
qui se ressemblent.
Voilà, par exemple.
Donc là, c'est typiquement un cas où tu te grattes la tête à faire une méthode paramétrée et d'aller généraliser le code pour du coup après. Et du coup, là, la solution, c'est bon, bah, on fait du copy-call. Donc c'est du one shot parce que Copilot n'y revient pas pour synchroniser les corrections de bugs.
Non.
Voilà, comment tu le. Alors, quand c'est de la génération nouvelle et à que toi tu t'attendais pas, bon, là c'est du net new pour toi.
Ouais.
Et dans le cas du copy, du coup, tu crois que c'est genre. C'est un peu diabolique à encourager la mauvaise pratique, ou, mais en même temps, est-ce que c'est de façon un truc que tu aurais fait parce que tu te serais pas embêté à. Parce que c'est compliqué des fois d'écrire ces méthodes généralisées.
C'est ça. Clairement, c'est là où je me méfie toujours quand même de ces trucs de génération de code et que. Ça va quand voilà, t'as deux méthodes qui se ressemblent, tu t'écris la première, la deuxième, il te la génère, bon, ok. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, si t'as trop de use case et machin, tu vas essayer de les paramétrer, toi, parce que tu sais très bien que tu veux pas, et ça, il saura pas le faire. Donc, c'est là où je dis qu'il faut quand même se méfier. Après, donc, ce que j'aime, c'est que c'est du code, bon, qui est généré. Bon, t'acceptes ou t'acceptes pas le code qui est généré, mais après, donc...
La end-user license agreement, à chaque fois.
t'acceptes le code généré, mais... En général, si tu demandes pas un gros paquet énorme, bon, c'est un code que tu vas être capable d'appréhender toi-même. J'ai pas vu des trucs trop succes. Même des fois, j'ai trouvé des trucs rigolos dans ce qui me générait, que j'aurais pas fait comme ça, que finalement j'ai pas fait comme il voulait, mais que je trouvais intéressant. Par exemple, des trucs à base de stream, les trucs à base de stream Java. Tiens, je veux faire, je sais plus quoi, moi, recherche le machin truc via. Hop, il m'a généré le code. Je dis. Ouais, ça fait ce que je l'aurais pas fait comme ça. Bon, finalement, je vais le faire à ma manière, mais ça le fait. Donc, il y a des trucs. Je trouve qu'il est assez intelligent. Et pareil dans ce qu'il propose. Donc, pour le coup, ça s'adapte bien vraiment. Donc, je sais pas comment ils font, mais effectivement, ça s'adapte relativement bien à ta code base pour comprendre un peu
les objets, leur structure, te proposer les méthodes qui correspondent dans tes objets, etc. Il fait beaucoup de réplication de ce qu'il voit ailleurs dans le code, il adapte, etc. Donc il y a vraiment cette logique qui est bien fichue. Voilà. Donc faites-vous une idée, testez-le si vous avez des petits développements à droite à gauche sur des trucs pas critiques en termes de sécurité. Je vous invite à le tester, c'est rigolo. Après, ouais, je sais pas si je le garderai ad vitam aeternam, si vraiment, de toute façon, si je pourrais l'utiliser, c'est pas le genre de truc que j'irais utiliser dans n'importe quel use case de trucs propriétaires, parce que voilà, enfin, j'ai trop peur aujourd'hui que.
Et juste une petite question, est-ce que c'est pas trop distrayant? Est-ce que ça te permet, parce que tu sais, des fois, quand tu codes, t'es un peu dans le flow, etc., et t'es concentré sur ton truc, est-ce que, pourquoi, parce que, ah, il me propose quoi, là? Ah oui, attends, faut que je comprenne, et t'es peut-être plus trop dans le mood, tu vois.
Je suis d'accord, et c'est là où je te dis, en termes d'ergonomie, je pense que j'aimerais que ça soit plutôt à la demande que pré-proposé, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans NTJ, alors après, j'ai pas regardé tous les tunings, à moins que ça soit configurable, mais.
You want a loop for that?
Ouais, non, mais c'est ça. En gros, c'est, tu laisses ton curseur à un endroit, tu commences à coder, tu laisses ton curseur, il va te proposer un bout de code derrière en fonction de ce qu'il comprend de là où t'en es,
ouais.
En version grisée, et si tu fais tab, tu le prends, et sinon tu continues de coder. Et c'est, je suis d'accord avec toi, des fois, bah, tu te dis, mais non, je voudrais pas, toi, je voudrais genre un shortcut vraiment précis pour dire, maintenant je le veux, maintenant pose-moi quelque chose, maintenant je le veux pas.
Okay.
Donc, mais d'un côté, je pense qu'ils font ça aussi parce que bah, donc ils apprennent en continu et donc ils font le truc en continu, etc. Mais je suis d'accord que j'aimerais bien avoir le feedback plus à la demande. Ça se trouve, c'est configurable. J'ai pas encore regardé toutes les options du plugin dans NTJ ou peut-être les autres IDE.
C'est vrai que ça doit l'aider aussi à s'améliorer éventuellement parce que si tu n'acceptes pas sa proposition,
et, c'est
il sait qu'elle est peut-être pas si bonne que ça. Quoi.
Et clairement, je vois qu'au fur et à mesure du développement dans la même code base, les propositions sont quand même beaucoup plus probantes qu'elles étaient au départ. Au départ, effectivement, il sortait des trucs, il dit, qu'est-ce qu'il me fait? Et je pense que doit y avoir une analyse du code et en fonction de tout ce que toi t'écris, t'acceptes, etc., il apprend. Mais je sais pas exactement comment ça fonctionne par rapport à ton code à toi, par rapport au fameux repo qu'ils ont scanné et qu'on sait pas trop ce qu'ils en ont fait de ce qu'ils ont scanné. C'est ça que je sais pas. Mais voilà.
D'accord.
Donc une expérience, en tout cas.
À tester.
Intéressante, ouais. Intéressante.
Super.
Ok.
Après, c'était la question de. On sait, il y a des débats assez généraux sur le. Enfin, certains chercheurs en intelligence artificielle qui disent plus. En fait, plus on met de points et plus. Plus les biais ressortent, en fait. C'est parfois même plus que juste représenter les biais des données de source. Et des fois, il y a une exagération des biais. Donc là, si on voit si ça injecte le code du mauvais développeur.
C'est ça. Non, mais clairement, c'était ce qui avait été dit à l'époque. C'est comment décider que c'est un bon pattern, un mauvais pattern? Qu'est-ce qui a été, comment est-ce qu'ils ont sélectionné? Et même en fonction
le
de moi.
Le copier-coller est-il un bon pattern? Vous avez 3 heures.
Quand on propose quelque chose, est-ce que je vais choisir de dire oui ou non avec logique ou pas? Enfin, voilà, c'est tout ce truc-là qui.
Mais, ouais. Bon.
En tout cas, ça intéresse. J'en ai eu plus. Ce que je voulais dire, c'est qu'au final, je suis plus impressionné et j'en ai retiré plus que ce que je m'attendais. Voilà.
D'accord.
Je m'attendais vraiment à avoir un truc un peu gadget, un peu qui allait générer des trucs pourris régulièrement. Mais non, ça peut aider, c'est pas mal fichu.
Ok. Voilà.
D'accord.
Après, ça va pas multiplier par 15 votre productivité. Hein. C'est pas les bouts de lignes de code qui vont être générés qui vont vous faire gagner un temps monstrueux, même si on écrit en Java avec ses verbeux, c'est pas ça qui va vous changer. Enfin, généralement, moi, je passe plus de temps à réfléchir qu'à coder, donc généralement, c'est pas ça qui va m'aider énormément. Mais bon, ça aide. Voilà.
Alors, nous allons passer aux conférences et on a
triché.
Outsourcé.
C'est là qu'on remercie Aurélie.
Ouais, tu vas en parler, Arnaud.
Oui, alors j'ai triché effectivement, mais on en avait déjà parlé. Aurélie Vaché, qui donc développeuse, qui est aujourd'hui chez OVH, maintient un repo GitHub sur lequel elle référence toutes les conférences à venir. Alors c'est du contributif, donc il y a plein de gens qui rajoutent leurs conférences et elle maintient aussi, enfin ils maintiennent aussi les CFP quand est-ce qu'ils ferment et tout ça. Je me suis dit comme nous on fait la même chose chez les Cascodeurs, mais juste sur un scope. si, mais on va quand même pas sur un scope français, francophone. Je vais essayer juste de grepper son contenu pour présenter le contenu France. Alors un petit peu plus, parce que j'ai triché, j'ai fait de la promo pour Devox Maroc et Devox Belgique. Mais voilà. Donc là, on vous a mis dans les show notes toutes les conférences. On peut en citer quelques-unes, mais alors là, il y en a un peu beaucoup. Mais les prochaines qu'on connaît, qui sont les plus, qui arrivent bientôt le 21 et 22 juin, vous avez Vox Day Luxembourg. J'y serai. Il y a le Brest Camp le 29.
J'y serai pas.
29 juin au 1er juillet, ouais.
Ouais, 29 juin au 1er juillet, c'est ça. Sunnytech du 30 juin au 1er juillet. Agilil, je connais pas trop, du 30 juin au 1er juillet aussi. Et après, on passe directement en septembre. J'ai rien vu en France sur l'été, ce qui est classique. Le Jog Summer Camp, qui lui a lieu le 9 septembre. Et après, bon, on part plus loin. Il y a Cloud Nord, le 29 septembre, au mois d'octobre, Devox Maroc, Paris Web, Devox Belgium.
Etc. Voilà.
Etc. Donc, dites-nous si c'est utile ou pas utile. C'est vraiment un grep de ce qu'a fait Aurélie. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire un grep de ce qu'a fait Aurélie? Je ne suis pas sûr. Enfin, Aurélie et les contributeurs, hein, qui contribuent à sa page. Voilà. C'est juste pour vous donner une idée des conférences à venir, et surtout il y a les infos de CFP quand ils sont fermés, etc.
Voilà. Yes. Ouais. Il y en a un qu'il faut absolument dire, c'est le 17 juin, c'est Cloud West, ton univers.
pas mal.
Et c'est vrai que graphiquement, on voit quand les CFP sont ouverts ou pas.
Ouais. C'est très bien fait, sa page est très bien faite. Faudrait Aurélie, si tu peux juste mettre dedans, t'assurer qu'il y a toujours France décrit. Comme ça, je peux juste faire un grep sur la page avec là où il y a le mot France, et c'est nickel.
Mon salaud.
Ça marche, et bien, merci de nous avoir écoutés. J'espère
à bientôt,
que ça
bisous.
Vous a plu. Voilà, à bientôt. Et puis, bientôt. À la prochaine. Voilà.
Ça marche. Ciao. Et
à toi, travail, hein.
Ciao, ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.